Je vais lire ce verset de Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour qu'il le cultive et le garde. Et je vais un peu plus m'attarder sur le mot garder. Mais quand on retourne au premier chapitre de Genèse, on voit Dieu qui crée le ciel et la terre. Après tout ce qui a eu tout le chaos et tout ce que Dieu commence à faire, il y a le jour et la nuit. Donc ciel et la terre, jour et la nuit. Après, il va séparer, nommer, séparer chaque jour. Il y a ça qui revient. Dieu nomme, donne des noms et ainsi de suite. Et en réfléchissant toujours à ces premiers chapitres ou ces premiers versets de la Bible, quelque chose qui t'est devenu clair pour moi, c'était la question de limite. T'as dit le jour n'est pas la nuit, et quand les deux se mélangent, c'est pas bon. Et puis le ciel n'est pas la terre, il faut qu'il y ait une certaine distance entre le ciel et la terre. Et chaque jour, Dieu nommait, il séparait, il nommait. C'est quoi l'utilité un peu de ça? Je me rends compte quand on dit Noël ici, je vais réagir parce que le fait que je porte ce nom définit quelque part des limites autour de moi. Et quand vous me voyez là aussi, mon corps représente, ma peau représente comme une limite extérieur pour moi, de telle sorte que même quand je me mets à côté de quelqu'un, on n'est pas la même personne, on est deux personnes. Et toutes ces questions m'ont amené plus loin à dire, mais en gros, ça sert à quoi? Pourquoi Dieu n'a pas laissé une grande masse au début? Et je me rends compte, en dehors de Dieu lui-même, tout ce qu'il crée est limité. Tout ce que Dieu crée à des limites. Et des fois, il y avait une période où je pensais la spiritualité, c'est ne plus avoir de limites, Dieu va pousser toutes les limites. Et en réalité, Dieu crée des limites pour notre bien. Et c'est ce qu'on va voir dans ce Genèse 2-là que j'ai lu. Dieu plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Et peut-être même en parlant de limites, la Suisse, je n'ai pas vécu dans ce temps-là, hein. Pour qu'on ait les frontières qu'on a eues maintenant, c'est qu'il y a eu beaucoup de guerres autour. Les pays ont des limites, et tout à coup, quand tu vas dans les limites d'un autre pays, ça peut déclencher des choses. En Ukraine, il y a des milliers de personnes qui sont tuées depuis 5 ans juste pour un truc de limite. Enfin, c'est pas si anodin que ça. Donc, les pays ont des limites, les gens ont des limites, et parfois il y a même des limites invisibles. Il y a des gens, quand vous vous approchez, pour eux c'est bon, mais il y a d'autres personnes, quand vous vous approchez au bout d'un certain temps, ils commencent à. Parce que c'est comme si on entre dans un espace invisible, mais qui définit un peu mes limites. Et en réfléchissant sur tout ça, je trouvais passionnant le truc et la clé, je trouve dans ce Genèse 2, verset 15, quand Dieu dit à l'homme de garder, ok? Jusque-là, tout va bien, l'homme garde et on ne sait pas à quoi c'est utile. Mais un jour arrive où l'homme cesse de garder le jardin et puis, en gros, c'était déjà trop tard. Quand l'ennemi vient dans le jardin, l'homme se rend compte, ah, ok, voilà pourquoi Dieu voulait que je garde. Quand le serpent entre dans le jardin et commence à parler à Adam, à Ève, ce qui se passe, on voit que la vue de Ève change. Ce qui était normal pour Ève, tout à coup, un verset de Genèse 3 dit, la femme vit que le fruit était bon. Elle pouvait même ouvrir les yeux, c'était agréable, quoi. Donc, quelque chose change dans l'intérieur de la femme quand elle commençait à entendre des paroles du serpent. Et En parlant toujours des limites, je me rends compte que si Dieu demande de garder, c'est qu'il y a aussi des enjeux autour de ces limites-là. Et une forme de ces enjeux, c'est un peu comme l'agression, hein. Mes limites, si elles sont là, il y a peut-être deux manières ou plus d'envahir mes limites. Soit on utilise la force, et là, si la personne est plus forte que moi, en fait, elle entre dans mes limites. Mais s'il se rend compte qu'il n'arrive pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une autre manière sournoise qui sera la séduction. Et il y a des termes que dans le milieu chrétien, on entend souvent le combat spirituel. Et puis le combat spirituel, en gros, ça a à voir aussi avec ces questions de limites. C'est-à-dire, Satan qui est venu dans le jardin sous la forme de serpent, il n'a pas fait que ça. Il continue aujourd'hui aussi. Mais ce qu'il avait fait au niveau de Adam et d'Ève, c'est comme si au niveau de l'agression, il ne pouvait pas. Le jardin, ils l'ont gardé d'une manière qu'il ne pouvait pas entrer. Alors, qu'est-ce qu'il a utilisé? Le chemin qui est la séduction. Je vais plus m'arrêter sur cet aspect de la séduction. C'est vrai, quand on dit le mot séduction, ça a d'autres connotations. Quand on parle de séduction, on pense à la femme et l'homme. Mais c'est plus que ça. Ça va plus loin que ça. Est-ce que le Satan utilise dans le jardin d'Éden, c'est l'agression. Il n'utilise pas ça. Mais la séduction, c'est comme un truc en réfléchissant. Disons, les limites passent par ici. Et puis, il vient et dit à Ève, mais en réalité, et si les limites qui sont ici, et si on les pousse un peu ici, est-ce que ça ne va pas aller ici? Et si on l'amène ici, peut-être on le déplace là. Et tout ce qui était ferme, tout à coup, ça devient flexible. Et dès que les limites ne sont plus solides et flexibles, on est dans ce que Ève elle-même va dire, j'ai été séduite. En gros, mes limites ont été fragilisées au point où je ne savais plus où étaient les limites. Et c'est pour ça qu'on appelle Satan le séducteur. Il vient quand il y a la manière, en fait, la plus visible, qui est l'agressivité. Par quels moyens il va utiliser? Il y a tellement de moyens qu'il utilise pour agresser des vies et tout. Mais la plus sournoise, là, de commencer à dire, mais et cette parole de Dieu, tu penses que c'est vraiment ça? Et si on la bouge un peu, dans notre culture, on peut aussi faire comme ça. Tu gardes la limite, mais au lieu que ce soit là, ce sera ici. Et tout ce que je dis schématiquement là maintenant, on peut l'amener dans tout plein de domaines. Et quand, dans tel domaine où tu étais clair, dur, appuyé, tu sais que c'est comme ça et ça a été fragilisé, il va sur un autre domaine, il fragilise, il va sur un autre domaine, il fragilise. Et en réalité, avant qu'on se rende compte, l'intérieur a déjà été envahi. Et qu'est-ce qui est envahi? C'est que la vision du monde, de Dieu, de nous-mêmes, des préceptes de Dieu sont déformés. Ce qui était très clair dans le cœur d'Ève et d'Adam, que fruits, on ne mange pas, on ne touche même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ève ne l'a même pas encore mangé quand elle commence à se dire, mais ce fruit doit être bon. Oh, mais c'est bon, ça doit pouvoir faire quelque chose, en fait. Donc, avant même qu'elle mange le fruit, le venin est déjà entré dans son cœur et manger, c'était juste pour finaliser l'histoire, en fait, et qui était déjà acquis à l'avance. Et peut-être je fais un saut, hein, dans les proverbes quand Salomon ou l'auteur du proverbe dit garde ton cœur plus que tout. En gros, quand la séduction vient, ce n'est pas déjà en t'amenant à faire ce que tu pensais que c'était pas possible. C'est d'abord dans le cœur. Et l'ennemi a différentes manières. Quand on parle des armes du chrétien, il y a des armes qu'on dit contre les traits enflammés du malin. Il y a une certaine arme à utiliser. On parle du bouclier de la foi, on parle de l'épée de l'esprit, on parle de la vérité comme ceinture et différentes armes. Et en réalité, il y a des armes qui sont engagés quand il s'agit du combat violent, spirituel, là, mais il y a d'autres, c'est contre la séduction, tout simplement, en fait, hein, de rester dans la vérité, une vérité qui est non monnayable, non déplaçable, non négociable, et en restant dans cette vérité qui est la parole de Dieu. Mais l'ennemi vient, des vagues viennent, s'en vont, viennent, s'en vont, mais ils se rendent compte, ils doivent reculer. Mais quand on laisse Ève et Adam de côté un instant, en gros, Satan ne s'est pas arrêté là, il les a vaincus, eux, en fait. Et puis, nous aussi, on est entrés dans, quelque part, son influence. Mais quand Dieu a voulu corriger les choses, a envoyé le deuxième Adam, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Le jardin a juste changé, mais dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes scénarios. Il n'est pas venu contre Jésus avec voilà, je vais te tuer. Et non, il sait que Jésus était prêt et le connaissait, et les armes que Jésus avait lui permettaient de vaincre Satan quand il venait au niveau du combat violent spirituel. Il utilise l'arme de la séduction. Hein, c'est-à-dire, on va essayer de fragiliser les limites. T'es sûr? Tu sais, Dieu t'a envoyé pour sauver le monde. Hein, puis, écoute, la gloire de toute la terre, je te donne. Hein, c'est ça, tu viens pour restaurer. Je te donne cette gloire, juste agenouille-toi. Si Jésus n'était pas au clair que l'adoration était que pour Dieu, il va vouloir atteindre le salut du monde. En s'agenouillant devant celui de qui il veut sauver le truc tordu à un niveau, et ça, c'est la séduction. Un moyen détourné de telle sorte que la vérité n'est plus vérité, la vérité n'est plus solide. Et pensons à notre société, en fait, hein, c'est vrai. Il y avait l'utopie à un moment donné de la société chrétienne, et ça, c'est, je pense qu'on ne croit plus à ces histoires-là, mais dans la société, peu importe où vous allez, mais quand on parle de nous, notre cas, combien de sujets, quand on prend, il n'y a plus une vérité. Ben, ça peut être ici, ça peut être là, et si c'est là, ça va aussi, comme ça peut être là-bas, en fait. Donc, chacun finalement a sa vérité, et puis le chrétien dans tout ça devient tellement solide de vouloir être chrétien ou de chercher à être chrétien. Et après, dans un moment, tout à coup, soit on se décourage, soit on se met avec d'autres chrétiens et c'est peut-être aussi pour ça, parce que des fois je me dis, Seigneur, mais au bout d'un certain temps, on a entendu quand même presque tous les messages de la Bible, excusez-moi, mais vous êtes dans l'église depuis 60 ans, et puis on vous prêche dimanche après, si c'est que la théorie, mais on connaît la théorie en réalité. Mais le fait de se retrouver régulièrement, tout à coup, un témoignage que quelqu'un donne, ou même un truc difficile que quelqu'un est en train de vivre, mais persévère, tout à coup, ça me fait appel à dans tel domaine parallèle, mais j'étais en train de vivre, et tout à coup, ça me secoue un peu, j'ai dit, ah oui, je dois faire attention. Et donc, ça fait que la séduction est autour de nous, de tous les côtés, en fait. Jésus, il résistait à cette séduction par la parole de Dieu, parce qu'il connaissait la vérité et Satan a dû fuir. Et puis, les chrétiens, les premiers chrétiens aussi, à différentes occasions, même un chef religieux, on interdit aux disciples, vous ne pouvez plus annoncer l'évangile. Ça, c'est peut-être même déjà l'agression, en fait. Hein. Ça, c'est, on va dire, un combat violent, agressif, en fait. Et donc, un peu ce qui est sur mon cœur ce matin, c'est de, quelque part, en parlant des limites, dans quel domaine déjà l'ennemi a fragilisé nos limites. C'est pas pour dire que c'est fini. Quand on se retrouve dans un piège, dans un domaine, c'est terminé. Non, mais déjà se rendre compte, est-ce que mes limites ont été fragilisées dans un domaine et comment je peux faire pour que mes limites soient restaurées? Et nous, au niveau de ce projet de prière, école de prière, réseau de prière qu'on a, on met quelque part, on monte comme une garde autour des familles. Mais pourquoi? Parce qu'il est dit dans un passage où Paul dit, mais l'ennemi aveuglé les gens qui se perdent. C'est aussi une image cruelle des fois, hein, où on voit avant que des gens exécutent, au fait, hein, peut-être soit des chrétiens ou des prisonniers, au fait, on attache une paille contre leurs yeux pour qu'ils. Et en pensant à ça, je voyais comme des familles aveuglées que l'ennemi cherche après à détruire, mais en attendant, on les aveugle et comme ça, ils ne voient rien. Et ce qu'on est en train de faire au travers de ce mouvement de prière, c'est de dire, Seigneur, ouvre leurs yeux, détache tout ce qui est comme voile que l'ennemi a mis sur leurs yeux, de telle sorte qu'ils voient. De telle sorte qu'ils voient la gloire de l'évangile quelque part. Et quand tout à coup, les gens vont commencer à dire, comment on a pu être dans une situation comme ça depuis tant d'années, ou comment on a pu vivre ça depuis tant d'années, ainsi de suite. Donc, on témoignait tout à l'heure, peut-être au travers de ces témoignages, ne cherchons pas un résultat forcément en termes de résultats, mais il y a des trucs qui se passent dans le monde spirituel que nous, on ne va pas voir, en fait. Et le but, c'est pas qu'on voit tout, non plus. Ce que Dieu fait déjà dans nos cœurs en priant pour les gens, c'est extraordinaire. Mais sachons qu'en priant pour ces familles, ces gens qui nous entourent, Dieu est comme en train de, en fait, d'enlever les voiles et peut-être des gens qui sont comme dans un esprit de séduction, Dieu enlève, au fait, hein, ces pressions sur leur vie. J'essaye de rassembler, résumer ce que je cherchais à partager en partant de l'idée de limite à la base dans Genèse. Il y a comme une vérité que Dieu donne pour tous les temps. Même ici, les quatre murs définissent les limites de ce bâtiment. Et je me suis dit, mais pourquoi on fait même à clé, en fait, hein, et on aurait pu laisser nos portes ouvertes. Non seulement on a des murs, mais on ferme encore. En fait. Et tout à coup, quand il s'agit du domaine spirituel, on n'est pas attentif à ça. Je dis, le monde autour de nous nous enseigne tellement. Et il y a ces réalités qui sont là pour nous dire, dans le monde invisible, c'est encore plus fort, surtout parce qu'on ne les voit pas avec nos yeux. Et dans quel domaine on a laissé peut-être la porte ouverte, en fait. Donc, l'ennemi n'a même plus besoin de séduire avant d'entrer, la porte est ouverte, en fait. Et demander à Dieu, Seigneur, s'il y a des domaines comme ça, s'il te plaît, montre-les-moi. Et peut-être les portes sont fermées, vous êtes attentif, vous êtes dans la vérité, il sait que s'il vient avec la séduction, il ne va pas réussir grand-chose, alors il va peut-être chercher la croix, la confrontation violente. Et puis là aussi, les chrétiens persécutés, et quelqu'un priait pour eux tout à l'heure, c'est un modèle pour nous, ces gens qui disent, l'ennemi il n'a pas réussi à nous séduire, mais si c'est même pour nous détruire notre vie physique, on est prêt à laisser notre vie, mais on ne fait pas de compromis, quelque part. Donc, c'est pas un encouragement pour moi que je cherche à vous laisser aussi. Donc, le jardin d'Éden, la vie de Jésus et nous dans la société aujourd'hui. Donc, autour de nous, soyons attentifs. Toutes les lois qu'on vote, on est bon, hein, dans les votations, on vote régulièrement, mais il y a des trucs, quand on les vote, c'est vrai, on sera sous la couverture de ces lois. Après, mais comment faire en tant que chrétien quand des lois sont contre justement les principes bibliques, au fait? Donc, du coup, il y a tout plein de domaines où la séduction, je ne sais pas, c'est peut-être devenu comme un rouleau compresseur et pour aller contre, on a besoin les uns des autres. Donc voilà un peu ce que je cherchais à partager au travers de ce message. Ouais, Seigneur, tu connais les domaines dans lesquels nous avons déjà été séduits, les domaines dans lesquels peut-être on est encore en train de se battre. Il y a une attaque là, forte, et je prie que tu nous donnes la force de résister à toute séduction qui vient, à toute attaque, à tout combat spirituel, tu nous as donné les armes. Et en pensant à l'église ici, en pensant aux familles pour lesquelles nous prions, Seigneur, nous voulons monter la garde. Et ouais, comme André l'a bien dit, nos vies d'abord, nos familles et les familles qui nous entourent. Et je prie, Seigneur, que alors que nous sommes dans ce cheminement, tu nous équipes alors que nous sommes dedans, Seigneur, viens les domaines fragilisés, viens les consolider en nous. Et les domaines où peut-être nous avons baissé les bras, Seigneur, envoie un frère, une sœur, ouais, pour nous encourager, la communauté pour nous encourager. Nous voulons être debout, debout jusqu'à ce que tu viennes. Ouais. Amen.